Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements, dans le Tarn et la ville de Gaillac qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh bien, c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ». Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on continue de parler de l'arrosage. Pourquoi ?
Pourquoi ? Et avec le sacré coup de chaud qu'il y a en ce moment, ça serait presque d'actualité, on pourrait dire.
Ah oui, ouais, ouais, bah oui, il fait très chaud. Il fait très chaud et je crois qu'il y a plus de 24 départements qui sont déclarés en sécheresse.
Oui, restrictions, interdictions, ça nous pend au nez. Un peu partout en France d'ailleurs, parce que je ne sais pas si tu as vu, dans la région de Reims, ils annonçaient 33, 35 ou un truc comme ça.
Fou.
Truc invraisemblable.
Ouais.
Au nord de Paris, les températures pareilles. Depuis 76, je ne me souviens pas en avoir vu beaucoup.
Mmh. Hein, mais je parlais avec des amis belges, par contre là-bas non. Et là ils étaient à 14 du côté de Liège, donc...
Eh bien c'est très bien.
Ah, bon, bordé, hein.
Oui, bien. Alors, dans l'art du jardinage, la principale difficulté, c'est d'adapter la quantité d'eau à donner en fonction du sol, de la température, de la plante, et puis de sa région aussi. Parce qu'on peut le voir observer actuellement, il y a des régions en France qui ont été très arrosées, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas été du tout.
Ouais, ouais.
Et ça pose de sacrés problèmes.
Ça pose de sacrés problèmes. Là, d'ailleurs, j'ai lu un article sur la moutarde.
Hmm.
Et qu'ils expliquaient que...
Ils te montaient au nez.
Oui, entre autres. Ouais. Il y a 80% des graines de moutarde qui sont...
Canada.
Qui viennent du Canada. Et pourquoi le prix de la moutarde augmente et pourquoi on a de plus en plus de difficultés à en trouver? C'est parce que l'année dernière, il y a eu une grande sécheresse au Canada. Mmh. Et que ça a réduit la production de plus de la moitié.
Ah.
Et... plus la guerre en Ukraine, parce que les 20% restants viennent d'Ukraine et de Russie.
Mmh.
Et donc aujourd'hui, on a un véritable problème au niveau de la moutarde.
Il y a un autre problème qui est très important, c'est qu'à bord, les bateaux venaient du Canada avec des moteurs. Maintenant, ils viennent à la rame, donc c'est beaucoup plus long.
Oui,
bien.
Mais plaisanterie à part, c'est aussi...
C'est pas une plaisanterie.
Oh non, non. Mais par contre, ça montre bien quand même l'impact du dérèglement climatique.
Tout à fait.
Sur l'agriculture. Là, on parle juste de moutarde, donc ce n'est pas forcément quelque chose de vital. Mais on peut parler d'autres produits. Qui
subiront le même sort.
Qui subiront le même sort et qui auront un impact sur l'alimentation mondiale.
Exactement.
Et qui risque peut-être de créer, des famines ou...
Comme c'est le cas en Inde ou au Pakistan, en Somalie, en Éthiopie, pardon, entre autres. Hein, peut-être des autres endroits dont on n'a pas parlé.
Oui, ouais, ouais. Et pourquoi pas chez nous prochainement?
Ça pourrait. Ça pourrait. Bon, on ne va pas tomber dans le catastrophisme parce qu'à moins nous le reprocher. Peut-être à juste raison d'ailleurs, mais je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience de la réalité, sans tomber dans
l'extrême.
Voilà. Bon, donc, si l'arrosage le plus simple, le plus efficace, ça y est, je commence à bafouiller, reste la pluie, bien entendu, malheureusement, on ne peut plus compter sur cet arrosage naturel, de plus en plus aléatoire. Des régions sont très arrosées, voire trop même, d'autres pas du tout, plusieurs mois, compromettant ainsi les récoltes dans les deux cas.
Et est-ce que le bafouillage est lié à la sécheresse? Non.
Non, c'est lié au kilométrage.
Ah d'accord, c'est pas la même chose.
C'est pas du bafouillage, c'est du fabouillage.
Ah d'accord.
D'accord.
Donc fabouillons, mon cher ami. Comment on fait? T'as des conseils?
Oui, bien sûr. Trop d'eau, lessive, le sol, ruisselle, ravine, inonde. Hein. Certains sols doivent même être drainés, devaient même être drainés, ce qui est un comble maintenant. Hein. Voilà, alors quelques conseils. On va y aller doucement. Arroser peu et trop souvent les plantes ne favorisent pas l'émission de racines profondes qui peuvent aller chercher l'humidité le cas échéant. Elles puisent l'eau en surface au lieu d'aller la chercher en profondeur. Résultat, elles souffrent de la moindre sécheresse. Donc, on va arriver à la page suivante. Les terres légères sablonneuses, par exemple, retiennent beaucoup moins bien l'eau que les terres argileuses, hein, quasiment le double. La terre argileuse retient quasiment le double d'eau d'une terre légère.
Hein. Pourquoi terre... Parce que le sable fait office de
ça
filtre.
Ça fait filtre, voilà. De drain plutôt, ouais. Que filtre, hein, de drain. Alors l'apport de matière organique, les composts, du fumier par exemple, améliore la rétention d'eau de ces sols.
Donc là, par rapport à mon potager, par rapport aux restrictions aux eaux, sur l'eau, par rapport à la chaleur, etc., qu'est-ce que tu me conseilles?
Alors, le problème est un peu différent ici, compte tenu que nous ne sommes pas dans un terrain sablonneux, hein, mais par contre un terrain rocailleux, qui est drainant lui aussi. Donc, reprenons le mot compost. Le compost, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre d'ailleurs. C'est bon dans un terrain argileux, parce que ça va l'aérer, ça va favoriser la vie du sol. Favorisant la vie du sol, ça va aérer le sol. Hein, et en plus, ça va fertiliser les végétaux qui vont puiser leurs ressources là-dedans. En ce qui concerne les terrains sablonneux, le compost va avoir un rôle d'éponge, hein, c'est-à-dire qu'il va s'incorporer dans le sol et il va retenir l'eau. Hein, ce qui va empêcher l'eau de descendre beaucoup plus bas. Alors bien sûr, ça ne va pas retirer la totalité de l'eau, mais ça va améliorer considérablement la rétention d'eau dans les sols sablonneux. Tu vois, donc c'est différent, les avantages sont différents, mais dans les deux sols, il y a un avantage adapté à ce sol-là.
D'accord.
Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que, quelquefois, beaucoup de gens nous disent « le compost, vous cassez les pieds avec le compost ». Non, on ne leur casse pas les pieds. Le compost, c'est une panacée, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas inventé. C'est la nature qui l'a inventé, je l'ai répété à plusieurs reprises, avec la litière de forêt ou avec les herbes qui se décomposent dans les prairies et qui fait ce compost tout seul. Pas la même rapidité que dans le composteur. C'est vrai, mais ça revient au même.
Donc là, plus ou moins, je peux mettre maintenant du compost.
Voilà, et dans un terrain argileux, par exemple, qu'est-ce qui va se passer en plus? Le compost mis par-dessus ou le paillage mis par-dessus le sol va limiter l'évaporation, hein, en protégeant le sol des rayons du soleil brûlant.
Ok. Voilà.
Bon alors, quand et comment arroser? Qu'est-ce que tu en penses?
Ben quand et comment? Déjà, moi, je suis surpris. L'autre fois, je me baladais dans la Drôme et je voyais ces grandes surfaces agricoles et ils arrosaient en pleine journée à midi. Et la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt de faire ça, dans le sens où c'est le moment de la journée le plus chaud. L'eau qui part en l'air comme ça, qui arrive sur le sol, ben, il doit avoir quand même, le sol doit être très chaud et donc il doit avoir de l'évaporation. Donc il y a une perte.
Il y a deux phénomènes qui se produisent. Il y a d'abord un phénomène d'évaporation, comme tu le dis, et puis il peut y avoir un phénomène de brûlage des feuilles, parce que les gouttes d'eau qui se déposent sur le feuillage font loupe. Hein. Bon, s'il en reste un petit peu sur certains feuillages, ça peut faire loupe, ça peut brûler. Hein. Bon, personnellement, bon, alors c'est vrai qu'en agriculture, les surfaces sont tellement grandes qu'ils ne peuvent pas tout arroser tout le soir ou le matin de bonne heure. Hein. Mais de là à arroser en plein midi, je ne suis pas agriculteur. Je ne veux pas les accabler, mais il y a peut-être d'autres solutions.
Moi, je pensais que c'était plutôt le soir, à la tombée de la nuit.
Ben, on va en parler, là.
Parce que je me dis qu'ensuite, il y a toute la nuit qui peut aussi laisser cette fraîcheur, la baisse des températures, etc.
Je n'ai pas de contredire.
Ouais. Hein.
Donc, comment arroser? Ben, avant que la plante ne commence à flétrir, bien sûr. Hein. Il est plus facile de compenser un manque qu'un excès. En fonction des saisons, l'arrosage est différent. Hein. En automne, au printemps, il est préférable d'arroser le matin. Le cas échéant, par aspersion, le feuillage aura le temps de sécher dans la journée. Hein. Au printemps, en automne, je n'ai pas dit en plein été. Hein. En été, arroser de préférence le soir tard ou programmer la nuit pour limiter la transpiration. J'ai dit programmer parce qu'on verra tout à l'heure qu'on a la possibilité dans des jardins particuliers qui sont relativement petits, ou des zones plantées qui sont relativement petites par rapport à l'ensemble du terrain, on peut utiliser des arrosages programmés.
Oui, ben là, enfin, nous, on est en train d'installer du goutte à goutte.
Voilà. Bon. Donc, en été, arroser de préférence le soir tard, ou programmer la nuit pour limiter la transpiration. Important, plutôt que d'apporter chaque jour une faible quantité d'eau, en plus d'être une vraie corvée, il vaut mieux arroser le sol abondamment pour que le sol soit humide sur plus de 10 cm carrés. De 10 cm de profondeur. Hein ? Alors là, je mets un petit truc par curiosité. Une fois que vous avez fait votre arrosage, grattez le sol, que vous pensiez gratter le sol, pour voir si l'arrosage que vous pensiez copieux l'est, vous risquez d'être surpris.
Alors moi j'ai une question là, parce que c'est bien tout ça, mais vu qu'on est dans une période de sécheresse et qu'on a des restrictions au niveau de l'eau, comment on s'adapte ?
On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs.
D'accord.
Il nous reste une émission à faire avant les grandes vacances.
Ouais.
Celle de mi-juin. Ce sera peut-être même plutôt fin juin.
Ouais. Hein?
Bon. Et justement, on parlera de la récupération, des récupérations possibles.
D'accord.
Hein? Bon, on en parlera. Ça demande une mise au point parce que ce n'est pas simple.
Non.
C'est pas simple. C'est quelque chose de difficile à réaliser. On verra pourquoi.
Ok, hein? D'accord.
Voilà. Alors, l'arrosage des plantes en pot, là encore, les besoins sont différents selon les plantes. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Attention, avec les coupelles sous les pots, si elles sont bien pratiques, ça fait une réserve, ça limite les écoulements, elles peuvent attirer les moustiques. Mmh. Hein, nous savons tous. Et avec la persistance d'eau, à la longue, même, on peut pourrir les racines.
Ah ouais.
Ce qu'il faut, c'est que la plante qui est en pot arrive à épuiser sa réserve. Et vous n'aurez arrosé que quand la réserve est épuisée. Hein? Il ne faut pas se dire « j'arrose tous les 48 heures, par exemple ». Non, il faut observer. Hein? Alors, je sais bien, je l'ai dit déjà plus haut, l'arrosage, c'est la corvée d'arrosage. Hein? C'est quelque chose qui est difficile à réaliser, qu'on peut oublier, hein? qu'on peut arroser trop fréquemment, on peut oublier d'arroser pendant une semaine. Hein? Je le dis parce que ça m'est arrivé aussi. Hein, on pense à autre chose, ou on n'est pas là, ou on n'a pas prévenu la belle-mère pour venir arroser, ou on a oublié de programmer le truc. Bon, il y a plein de bonnes raisons d'oublier.
Le grand-père qui ne fait pas son boulot.
Voilà, par exemple, hein, etc., etc. Alors, pour ces coupelles, là, que faire ? Au fond du pot drainant, déjà, du pot, pas de, non. Créer un fond de pot drainant. C'est-à-dire que dans le pot où vous avez la plante, avant de mettre la plante, il y a une couche de gravillon, un feutre anti-racine perméable, et vous mettez la terre par-dessus. Fait que la plante, la terre va absorber de l'eau, va stocker de l'eau, et l'excès d'eau va passer à travers la couche drainante et s'évacuer dans la coupelle. Et petit à petit, la plante pourra remonter, repomper, parce que les racines peuvent passer par leurs endroits, et aller pomper. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai observé une chose, ça dépend des mélanges terreux qu'on peut avoir. L'eau peut s'écouler plus rapidement dans certains mélanges que dans d'autres. Mmh. Et l'eau de la coupelle a du mal à s'évacuer. Donc ce que je fais, vous savez, dans les cuisines, on a des petites pipettes pour pomper le jus dans les plats.
Ouais.
Moi j'en ai une dans le matériel de jardin, et je jette un coup d'œil, j'ai pas 50 pots, jette un coup d'œil, et quand je vois qu'il reste un peu trop d'eau à mon goût, dans la coupelle, je pompe ça.
D'accord.
Et puis je la recrache à côté dans une plante ou
dans
un massif. Ouais. Bon, alors ils me dire que c'est chercher midi à 14h, non. Quand on a le temps, les retraités comme moi, ils peuvent se permettre ce genre de fantaisie. Bon, c'est vrai que les gens qui travaillent, ils n'ont pas que ça à s'occuper. Donc les différentes techniques d'arrosage. Alors en moyenne, un arrosage doit porter 5 à 10 litres d'eau par mètre carré. Soit une pluviométrie de 5 à 10 mm, c'est pas énorme. Hein. 1 mm égale 1 litre en mètre carré.
Ah d'accord.
Mais cela dépend aussi du sol, argileux égale rétention, sableux égale drainant. Hein. On en a parlé plus haut.
Ouais.
Et des végétaux, bien sûr. Il y a des végétaux qui vont pomper davantage d'eau que d'autres. Hein. Bon. Dans tous les cas, évitez le gaspillage. Égale ruissellement, évaporation. Hein. Bon, l'évaporation, c'est pas encore trop grave, mais quand l'eau ruisselle, c'est embêtant. On peut voir des ruissellements comme ça dans les arrosages où on a des rigoles. Et au bout du jardin, l'eau est perdue quelque
part. Ouais.
On va en parler un petit peu plus loin. Des questions, là ?
Non, là, pour le moment, ça va. Moi,
alors, l'arrosage par aspersion, arrosoir, avec la pomme d'arrosoir, lance d'arrosage, arroseur d'hiver, débit important et un gros inconvénient, feuillage mouillé. Mmh. Feuillage mouillé égale maladie cryptogamique. Oui, je sais, quand il pleut, et oui, le risque existe aussi. Hein? Tu as compris ce que je voulais
Mais
dire?
oui, mais c'est
Bon.
comme quand on voit les
Mais.
vignerons ici qui protègent, qui traitent, je crois, avant ou après?
Après.
Après
Après le lessivage.
pour le mildiou, c'est ça?
Oui,
Ah.
exactement. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'il ait plu, et puis après, une fois que, pour que le sulfate de cuivre a été lavé par la pluie, ils en donnent un petit coup. Hein?
D'accord.
Alors peut-être à une dose moins importante, hein?
Mmh.
Bon. Parce qu'on voit quand même moins souvent des vignes bleues comme on a pu les voir pendant
Ouais,
certains temps.
ouais, ouais.
Alors ça vient aussi de différents sulfates qui sont dedans, différents produits qui colorent beaucoup moins la bouillie bordelaise qu'avant. Alors donc on a l'arrosage par aspersion, on vient de le voir. C'est pas la meilleure des solutions à cause des maladies cryptogamiques, mais bon, dans certains cas, ça arrange bien. Par ruissellement. Alors vous avez sans doute entendu parler du système d'arrosage arabo-andalou.
C'est quoi?
Ben, c'est des rigoles. Les Arabes avaient inventé le système d'arrosage en rigole. Et on le voit ici, à
Oui,
Carcès, mais on le voit aussi dans le Tarn, à Gaillac. Hein? Il y a des rigoles importantes qui peuvent venir de sources, qui peuvent venir d'un lac, hein? Qui peuvent venir de nappes. Hein? Et respiration et évacuation dans des rigoles. Donc il y a des rigoles principales et puis des rigoles secondaires qui approvisionnaient tous les jardins alimentaires de l'endroit. Parce qu'il y a quand même 100, 150 ans, les gens, ils cultivaient ce qu'ils mangeaient. Hein. Bon, il y avait
Exactement.
quelques producteurs, mais bon, et ils avaient besoin d'eau. Et c'est ces rigoles-là, dont on voit encore des vestiges, comme je le dis aussi bien dans le 83 que dans le 81, pour ne parler que ces deux départements-là, des vestiges de ces rigoles, hein, qui étaient utilisées dans la journée ou dans la soirée, à certains moments de la journée. Il y avait même tu te souviens de tes grands-parents à Montereau qui pouvaient utiliser leur arrivée d'eau dans le jardin
Oui.
3 heures par jour. Et au bout des 3 heures, ils fermaient leur arrivée, qui continuait de descendre un petit peu en dessous, où là, il y avait un ou deux ou trois autres propriétaires qui pouvaient utiliser pendant 1 heure ou pendant 3 heures. Et puis le plus heureux de tous, c'était le maraîcher d'en bas qui récupérait toute l'eau. Bon.
Ben, il y a à Cotignac, je crois que c'est le chemin de l'eau. Et l'eau, c'est un droit de passage qui date de Napoléon. Et l'eau doit passer dans toutes les propriétés et aucun propriétaire n'a le droit de stopper l'eau.
De l'arrêter, voilà, c'est ça.
Il a le droit de l'utiliser,
Il a le
mais pas
droit
de la stopper.
d'ouvrir, c'est-à-dire que dans les rigoles, il y a des ouvertures latérales qui permettent de dévier une partie de l'eau dans des propriétés secondaires.
Mais sans boucher
Sans
les...
boucher la totalité.
Voilà.
Hein? Ou alors, comme je le disais à Montereau, mes parents, ils avaient 3 heures, je ne sais pas si c'est par jour ou 2 fois par
Ouais.
semaine, qu'ils pouvaient utiliser et fermer la rigole pour remplir un bac ou pour. Tu te souviens le bassin qu'il y avait? Bon,
Ouais.
ben, il remplissait le bassin et après il devait rouvrir,
Bien sûr.
rétablir le passage de l'eau hein, pour les gens du dessous. Donc par ruissellement, donc voilà, je vous parle de ce système arabo-andalou. Alors bien sûr, c'est un système un peu, comment je dirais, sophistiqué. Hein, et ce système d'arrosage date de 1500 ou 2000 ans. Hein. Bon, c'est pas
Ouais.
d'aujourd'hui. Hein. Il a été repris à différents endroits. Hein, vous avez certainement vu en visitant les jardins à Grenade, à l'Alhambra, un truc comme ça. Vous avez certainement vu ou dans certaines mosquées hein, des systèmes d'arrosage autour d'orangers, hein, qui sont des petites rigoles comme ça. Et ça vient d'une grosse rigole, hein, des grosses rigoles de 50 cm par exemple, ça 50, dans lequel il y a un gros débit. On voit ça ici à Carcès.
Bah
Hein,
nous, on
bon.
voit ça chez Jean.
Voilà. Et puis ça se termine par des petits caniveaux hein, qui font 15-20 cm de large et puis qui amènent de l'eau chez toi. Hein. Donc, alors, ce système-là était. Bon, bah, il pompait avec des câlèbes, il pompait avec des norias. Hein, la noria qui était entraînée par un animal souvent, hein,
D'accord.
ou bras d'homme, hein, et les rigoles en fin de compte. Donc, un truc avec ce système d'arrosage-là, qui existe encore ici, n'oubliez pas de fermer votre rigole. Hein.
Enfin, pas seulement qu'avec ce système, en général, quoi.
Voilà, hein, oui. Enfin, le robinet, souvent, on évite de l'oublier.
Ouais, bah ouais.
Parce qu'il y a la facture au bout.
Exactement.
Mais dans la rigole, on mesure, après tout, on paye pour l'eau, bon, on s'en fout, toc. Je viens de me faire manger le mollet par un moustique, mais c'est pas grave.
Ouais.
Alors, il y a aussi l'arrosage par immersion, hein, pour des plantes en pot. Trempe la plante dans un bac rempli d'eau, hein, le cul du pot. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est laisser s'égoutter avant de remettre la coupelle. Hein. voir ce qu'on a dit tout à l'heure, par brumisation. Alors ça, c'est un arrosage qui est typique dans les serres. Hein, on pulvérise, on atomise de l'eau hein, pour que la plante non seulement puisse boire de l'eau quand on arrose le pied, mais aussi par le feuillage. J'ai expliqué l'autre jour les petits stomates, là, les trous qu'il y avait dans le feuillage, hein, qui permettaient à la plante de transpirer, mais aussi de pomper l'eau. La plante a la faculté de pomper de l'eau quand il pleut un petit peu, par exemple. Hein, même si ça n'a pas suffisamment qui tombe sur le sol, les feuilles ont la capacité d'absorber une partie de cette eau en fines gouttelettes.
Hein. C'est incroyable,
ces trucs-là. Oui. Mais ça fonctionne bien. Hein. Ils ont bien, le type qui a fabriqué ça était loin d'être bête. Hein. Alors, il y a aussi l'arrosage par goutte à goutte. C'est celui dont on parlait tout à l'heure. Hein. Fini la corvée d'arrosage, partant d'un robinet équipé d'un réducteur de pression et d'un programmateur, un réseau de tuyaux apporte l'eau au pied des plantes à l'aide de buses réglables. Hein. Alors selon les marchands, vous avez eu des buses qui dévitent 3 litres et des buses qui réduisent 7 litres, hein, heure. Le gros avantage, c'est qu'on contrôle la durée, la quantité d'eau déversée en fonction des végétaux, du choix de l'horaire d'arrosage, de la fréquence des arrosages. Alors, c'est un peu cher à l'achat, mais rapidement, c'est très économique et pratique. Parce que quand vous partez 8 jours en vacances, plus besoin de demander au voisin ou à la belle-mère de venir arroser, vous réglez votre programmateur tous les soirs vers 11h, il arrose pendant 1h, 2h, 3h, ce que vous estimez nécessaire, et vous dormez tranquille. Et quand vous rentrez, vos plantes n'ont pas trop souffert de la sécheresse. Voilà. Donc, la prochaine fois, on parlera des possibilités de récupération, comment l'économiser. Mmh. En attendant, respectez les doses à apporter à votre jardin. C'est un autre pas vers le respect de l'environnement. Hein. Un livre intéressant pour un jardin sans arrosage d'Olivier Philippi, hein, aux Actes Sud. Voilà. Olivier Philippi, c'est une pépinière qui se trouve à Metz, hein, entre Béziers et après Montpellier, sur le bord de l'étang de Thau.
D'accord.
C'est un bouquin qui est très très intéressant. Philippi est un monsieur qui s'est beaucoup penché sur les plantes et la sécheresse, et qui est très très intéressant et qui a un catalogue encore plus intéressant parce qu'il marque toutes les exigences des végétaux que vous avez envie d'acheter.
Et donc ce livre, c'est quoi ? C'est des conseils, mais aussi selon
c'est un gros
plantes.
Livre, hein, c'est un gros livre avec beaucoup de photos. Il y a beaucoup de textes, mais il y a beaucoup de photos. C'est très pédagogique. Hein. C'est bien expliqué, c'est facile à comprendre. Il donne des listes de végétaux aussi. Hein. Donc c'est un bouquin qui est très intéressant. C'est un grand format, hein. c'est pas un petit bouquin comme ça. Hein. C'est un bouquin qui fait une toute petite menthe religieuse, disons, un bébé. Et c'est un bouquin qui est très intéressant. Il a écrit un autre bouquin aussi, Les plantes et la sécheresse. Hein. Où il explique comment fonctionnent les végétaux, et où il explique pourquoi il a ramené des plantes d'Afrique du Sud, enfin, etc., et qu'il a essayé de les adapter ici, puis d'autres territoires. C'est un monsieur qui se penche vraiment bien et qui a une pépinière au bord de l'étang de Thau, donc je me répète, avec à peu près 1 hectare ou 2 de végétaux plantés, et qui sont devenus adultes. Donc on peut non seulement les voir en petits, mais on peut les voir aussi en adultes.
D'accord. Hein,
dans une situation... qui commence, je suis allé l'année dernière à une réunion chez Philippi organisée par des services d'espace vert d'Occitanie. Et il disait qu'il commençait à avoir certains problèmes, même sur certains végétaux, qui avaient tenu le choc jusqu'à maintenant.
Ok.
Et c'est curieux, c'est qu'ici, ce qui est curieux, c'est qu'ici, ah oui, je le vois. Ce qui est curieux, c'est qu'ici, il commence à y avoir des gens qui disent, qui tiennent le même langage, qu'ils observent que certains végétaux qui étaient bien adaptés jusqu'à maintenant au climat commencent à souffrir de ces sécheresses répétées. On a 33 là, je crois, aujourd'hui.
Ouais, non, il faisait chaud. Voilà. Bien.
Bien. Bah, écoutez,
donc on se retrouve à la fin du mois.
Tenez-vous à l'ombre.
Hein? Parce que moi, je me sens un peu sec, là.
Oui. Ah oui, bah avec la chaleur qu'il fait, oui. Et puis alors, à parler comme tu parles, bon.
Ah voilà, aujourd'hui, j'ai pas trop parlé, justement, j'avais la gorge sèche.
À bientôt.
Allez, à bientôt.